Paul Arène, La Sérénade. J'ignore si cette histoire est neuve. Où sont-elles les histoires neuves? J'ai même un vague souvenir de l'avoir quelque part entendu. Mais on vient de m'en montrer le héros. Les témoins oculaires, dignes d'être crus, m'ont conduit à l'endroit théâtre de la chose. Et ma foi, je veux vous la raconter encore. Espérant tout au moins me rattraper sur les détails glanés en route, ça et là, comme ferait un voyageur qui décrit des paysages inconnus et déjà parcourus. Sans que ce soit précisément à Tarascon, ni à Beaucaire, ni à Arles, la chose ne se passe pas loin du coin béni où le Tartarin de Daudet, à qui désormais les Alpes neigeuses servent de triomphant piédestal, vit le jour et fit ses premières armes. Imaginez donc une de ces aimables petites villes, comme il y en a tant en province, sévères à la fois et souriantes dans leur mélancolie doucement florentine, avec un arc antique qui s'écroule, des placettes silencieuses qu'une fontaine emplit de son bruit, de hautes maisons à tournure de palais et des niches sculptées mais vides souvent à tous les angles des ruelles. Une de ces villes, enfin, dont les fillettes portant la coiffe, le ruban et le corsage arrangés en chapelle, évoquent à les voir passer comme une vision de l'or et font rêver de longs amours à la Pétrarque, fidèles et sans dénouement. Depuis 50 ans, M. Pessag habita là, fort peu imprégné d'ailleurs, disons-le tout de suite, par cette atmosphère de poétique platonisme. Bien au contraire, le gros M. Pessug, Tibéri de son petit nom, Tibéri Pessug, professait en fait de sentiments la plus coupable matérialité. Doué d'une santé de fer, mis au-dessus de l'opinion grâce à sa fortune, 15 000 francs de rente en bienfonds, Pessug ne s'occupait guère à cela avec la cruauté inconsciente et passionnée d'un collectionneur qui pique des papillons sur le liège qu'à mettre des innocences à mal. Des innocences pauvres surtout. Pauvres, l'innocence se défend peu. On ne comptait pas ses victimes. Que d'ouvrières d'atelier, que de bonnes d'enfants, que de cuisinières ainsi immolées. Toutes celles qui ne trouveront jamais mari et que les garçons, connaissant leurs fautes des visages, toutes celles qui, cachées à Paris, à Lyon, à Marseille, n'osent plus revenir chez les vieux parents, le mois des fêtes, honteuses qu'elles sont de leurs robes trop riches et de leurs peaux trop blanches, avaient eu Pessug pour premier vainqueur. Ce qui n'empêchait pas M. Pessug d'afficher les dehors d'un excellent père de famille, patriarcal comme personne, avec sa face pleine et rosée, son bedon pointant ou rimbalant une chaîne d'or quand il s'agissait d'accompagner salant le monde et saluer sa femme et ses filles à la promenade. Madame Pessug savait tout, mais ne s'inquiétait pas. Il faut que les hommes s'amusent, et puis les femmes du midi sont demeurent quelque peu musulmanes. Vraies tigresses pour ce qui touche à la tranquillité de leur intérieur, elles se montrent indifférentes volontiers aux fredaines sans conséquence qui se passent hors de la tente. Les amis de Pessug, gens austères, n'y aurait rien, mais il n'en admirait Pessug que davantage. Tous d'ailleurs, plus ou moins, imitaient Pessug en secret, et Pessug riait d'un joyeux rire qui éclairait soudainement son majestueux profil romain quand l'ami Sextus, le numismate, plaisantant sa face d'empereur romain et jouant sur son petit nom de Tibéri, l'appelait quelquefois Tibère. Et Sextus n'avait pas tort. Rien de moins rare dans les provinces que ces sortes de Tibères, bon vivants et bourgeois, portant la pourpre et se créant dieuses en d'intimes apothéoses. Car la Rome antique n'est pas morte tout entière, et le vent, du haut des 7 collines, a semé au loin, jusque chez nous, comme une graine malfaisante, la cendre des Césars brûlés. Les Césars, pour leur service de leur plaisir, avaient des affranchis et des eunuques. Pessug, lui, avait la Christole, une femme sans préjugés qui remplaçait avantageusement eunuque et affranchi. Le logis de la Cristole, maisonnette basse au fond d'un jardin, devenait ainsi, suivant les circonstances, le palais doré où Pessuc savourait, moyennant quelques écus, l'orgueil de commander et la joie de vivre. Pessuc étant sage, aurait dû s'en tenir là. Par malheur, il voulut varier ses caprices, et pris d'ambition, la Cristole aidant, il finit par décider à la chute d'une Bovary de province que les exploits d'un tel séducteur faisaient rêver. Rendez-vous fut pris au chef-lieu dans le plus bel hôtel, comme l'enseignent les romans, car la belle eut craint de se souiller en effleurant du bout des pieds le seuil diffamé de la Cristole. Comment Madame Pessuc apprit-elle la chose, je l'ignore, mais il s'agissait d'une bourgeoise, d'une égale. Cette fois, Madame Pessuc se fâcha. Or, Pessuc préludait à son crime, quand soudain trois coups se font résonner le pas de la porte. « Ouvrez au nom de la loi !» Pessuc ne répondit point. « Voyons, ouvrez, monsieur Pessuc !» ajouta le commissaire, qui le connaissait un peu. « Mais d'abord, il y a erreur en dissimulant sa voix. Je ne suis pas monsieur Pessuc !»« Et qui êtes-vous »« Je suis !» Le commissaire et ses agents attendaient anxieux sur le palier, et Pessuc, affolé, se tenant la tête à deux mains, sans même secourir sa complice évanouie, cherchait quel nom autre que le sien il pourrait jeter en pâture au déshonneur. Une inspiration lui vint. Dans un éclair, il se rappela le livre que lisait Madame Pessuc. Il voyait ouvert sur le guéridon du salon, tout rempli d'images. Et collant sa bouche à la serrure avec un accent formidable, « Je suis, eh bien, je suis Alexandre Dumas !» Devant un nom si glorieux, la force armée hésita. « Alexandre Dumas ?» dit un des agents. « Nous dérangeons Alexandre Dumas, mais c'est ça qui s'appelle une gaffe !»« Retirons-nous, » ajouta le commissaire. « La dénonciation doit être fausse. Dans tous les cas, il convient d'en référer. » Et discrètement, à pas de loup, ils redescendirent l'escalier. Quand il n'entendit plus aucun bruit, Pessuc ranima la dame, ce qui lui prit un bon quart d'heure. Puis, l'ayant fait évader, il voulut sortir à son tour. Mais auparavant, par prudence, afin de voir si la gendarmerie ne garderait pas les issues, il se hasarda sur le balcon. « Essou ! C'est lui ! Un, deux, trois, quatre !» Alors une fanfare éclata. Des applaudissements, des bravos montèrent. Le commissaire avait parlé. Toute la ville savait maintenant que l'auteur de Monte Cristo se trouvait à l'hôtel incognito en bonne fortune. Oh, ces poètes ! Et la musique, réunie précisément à la mairie pour répéter, avait saisi cette occasion de faire prendre l'air à ses cuivres. Un monde fou courait la place, et Pessuc, pétrifié, saluant à droite et à gauche en manière de contenance, voyait passer les bannières et défiler le prix d'une course de taureaux improvisée en son honneur. Il descendit enfin, pas assez vite pour empêcher l'aubergiste d'illuminer. Quelques personnes, l'ayant vu, le collet relevé, le chapeau sur les yeux, en train de courir vers la gare, prétendirent bien que ce n'était peut-être pas tout à fait Alexandre Dumas. Mais l'amour-propre local fit taire ses voix discordantes, de sorte que la légende s'établit et que les habitants parlent encore, non sans une émotion d'orgueil, du jour où la ville tout entière, avec des drapeaux et des musiques, acclama l'illustre conteur. Et M. Pessuc ? Oh, M. Pessuc ne protesta point, au contraire. Seulement, en renonçant à ses amours de haut vol, c'est Mme Pessuc qui est contente, reprit tout doucement ses bonnes petites habitudes.